Sonar, l'écho de l'histoire.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Sonar. Dans l'épisode précédent, Florian Julien nous faisait le récit du vagabondage et sa répression dans la ville d'Amiens durant le 19e siècle. Aujourd'hui, nous vous proposons un bond dans le temps, en 1901, à la période dite de la Belle Époque, afin d'aborder une autre forme de marginalité. Coralie Doua, doctorante en sciences politiques, qui a étudié les pratiques illégales de l'habitat, va nous parler des anarchistes de la rue Saint-Germain à Amiens. Elle nous a donné rendez-vous au pied de l'église Saint-Germain, non loin du Beffroi et du quartier de Saint-Leu.
Salut Coralie, où est-ce qu'on se trouve actuellement ?
On est au niveau de l'église Saint-Germain, donc qui se trouve dans la rue Saint-Germain, et qui est en fait la rue qui fait le haut du commissariat central d'Amiens, qui est en centre-ville. Cette rue là qu'on voit actuellement, elle a été en grande partie démolie dans la Seconde Guerre mondiale, donc il ne reste plus beaucoup de bâtiments d'avant, mais on voit quand même l'église donc, qui elle est restée, et en fait faut se dire que cette rue avant elle ressemblait pas du tout à ça. C'est une rue qui est frontalière entre ce qu'on appelle la ville basse, donc en fait Saint-Leu, c'est-à-dire avec les canaux, l'eau, des maisons, les maisons, enfin le quartier historique et populaire en fait d'Amiens, et la ville haute qui est le centre-ville, donc plus en hauteur, et où il y a toutes les administrations, etc. Et donc cette rue, en fait, par sa position frontalière, c'était une rue qui était au 19e siècle et encore au début du 20e siècle, une rue très animée, très vivante, avec beaucoup de petits commerçants, des chiffonniers, des brocanteurs, et voilà, de l'animation tout le temps.
Si j'ai bien compris, cette rue a accueilli des locataires un peu particuliers.
Alors, au début du mois de juin 1901, il y a des cordonniers anarchistes qui vont venir s'installer au numéro 8 de la rue, dans un petit local. Ils vont étendre une grande toile blanche au-dessus de la boutique, avec écrit « Ligue des antipropriaux ». Ils vont placer plein de gravures anarchistes partout dans la vitrine, et des grosses caisses en bois blanc sur lesquelles ils prennent appui pour travailler, avec encore des slogans anarchistes écrits dessus. Et toute la journée, en fait, ils vont chanter des chansons, siffler, etc. Et il y a beaucoup de passants, en fait, qui vont venir voir toute cette agitation. Ça va faire parler beaucoup dans Amiens. Il y a les deux principaux journaux de l'époque, donc le Journal d'Amiens et le Progrès de la Somme, en fait, qui est l'ancêtre du Courrier Picard, qui vont venir écrire des articles dessus. Il y a la police qui va venir. Enfin, ça va faire toute une agitation. Leur local, il est situé juste à côté de l'église Saint-Germain. Et donc, il y a souvent des prêtres qui passent ou des processions religieuses. On est aussi donc 1901 à l'époque en fait de la séparation de l'Église et de l'État, et donc les anarchistes sont vraiment contre la religion en général et vont avoir toute une attitude provocatrice à l'égard des prêtres et dire voilà des injures, des jurons, des insultes à chaque fois qu'ils passent pour les provoquer.
Extrait de l'agent de sûreté de la ville d'Amiens. La maison porte comme enseigne une bande de calicot blanc avec ces mots. Ligue des antipropriaux. Collé au carreau de la devanture et dans l'intérieur de l'atelier, on aperçoit de nombreux journaux anarchistes et des affiches de gravures représentant des anarchistes. Il y a dans la vitrine de gauche une gravure encadrée représentant Ravachol, avec tout en bas cette phrase « Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire ». Cette gravure est placée derrière le carreau de façon à ce que tout le monde, en passant, puisse la bien voir. Toute la journée, des groupes de personnes stationnent devant la maison.
On peut peut-être rappeler ce qu'ont été les anarchistes à cette époque, leur but, leur idéologie.
L'anarchisme, c'est un courant politique qui naît au 19e siècle. Donc on considère souvent que c'est Proudhon, le père de l'anarchisme, qui écrit en 1840 « La propriété, c'est le vol ». C'est un courant donc, proche du socialisme, mais qui se distingue en fait par ses idées anti-autoritaires, donc contre la hiérarchie. Les anarchistes, en fait, ils ont plein de revendications différentes et plein de modes d'action différentes. On connaît souvent les célèbres attentats anarchistes à la bombe à la fin du 19e siècle, donc dans les années 1890, qui vont ensuite donner lieu à ce qu'on a appelé les lois scélérates, donc des lois de répression très importantes qui ont contraint pendant quelques années les anarchistes à être un peu dans l'ombre. Au début des années 1900, on est vraiment dans une période de renaissance du mouvement anarchiste, après donc cette période un peu sombre des lois scélérates. Et donc les anarchistes vont avoir plein de modes d'action hyper différents. Donc ils vont encore utiliser par exemple de l'action directe ou de la propagande par le fait. Donc en fait, qui vont être des pratiques de sabotage, comme les attentats, mais c'est pas forcément des attentats en fait. Ça peut être, par exemple, à cette époque-là, à Amiens et autour d'Amiens, ils font de la dégradation de symboles religieux beaucoup. Ils vont dans des églises, ils saccagent des croix à des intersections dans des villages pour manifester en fait leur refus de la présence de cette religion dans l'espace public. Ils vont avoir aussi des pratiques de syndicalistes. Les anarchistes à Amiens sont très moteurs et très investis dans les luttes syndicales au début du XXe siècle, notamment dans les syndicats textiles et cuir et peau, donc c'est la cordonnerie. Et ils vont avoir encore des pratiques qui ont trait donc, au logement, c'est ça donc leur ligue des antipropriaux, où là ils vont faire des grèves des loyers, ils vont déménager furtivement, c'est-à-dire sans payer ce qu'ils doivent à leurs propriétaires, leurs meubles. Et donc finalement, ils ont un panel de pratiques vraiment très étendu. Et je pense que c'est aussi une caractéristique qui permet de les distinguer des socialistes qui vont être plus exclusivement centrés sur l'action syndicale, par exemple.
Derrière cette appellation d'anarchiste, il y a des individus. Qui sont-ils ?
Alors donc dans l'affaire de la rue Saint-Germain, il y a 5 anarchistes qui vont être condamnés à des peines de prison entre 15 jours et 2 mois. Et ils ont tous 27-28 ans. Et donc je peux parler de l'un d'eux qui a été un peu identifié comme le leader de cette ligue des antipropriants, qui est Edmond Carpentier. Donc Edmond Carpentier, il est né à Montreuil-sur-Mer, et en fait il est arrivé à Amiens en 1900, et il a été au début hébergé par un ami à lui, Jules Lemaire, qui est aussi anarchiste, cordonnier, qui fera aussi partie de la ligue des antipropriants. Il va rester quelques mois chez Jules Lemaire et en septembre 1900, il va trouver son logement à son nom propre, où il va s'installer, place du marché aux chevaux. Et il va entamer une grève des loyers pour protester contre sa propriétaire parce que le logement est insalubre. Pendant plusieurs mois, il ne va pas payer son loyer. Et suite à ça, il se fait expulser. Donc il se fait expulser en janvier 1901. Là, il va trouver un autre logement près du Jardin des Plantes et rebelote. Donc il va de nouveau pas payer son loyer, se faire expulser. Et cette fois-ci, quand il se fait expulser, tous ses camarades anarchistes vont venir déménager ses meubles avec des charrettes et se promener dans toute la ville d'Amiens en chantant des chansons pour voilà, se faire remarquer et manifester leur mécontentement. C'est seulement 3 ou 4 jours après cette expulsion et toute cette déambulation en ville que les cordonniers anarchistes vont ouvrir leur local rue Saint-Germain.
Je fais partie d'un groupe d'anarchistes qui a comme spécialité de faire les déménagements pour venir en aide aux communistes qui se trouvent gênés pour payer leur logement. Nous sommes ennemis de sous-propriétaires, par contre nous sommes amis du prolétaire. Voilà pourquoi, parmi les anarchos, on nous a surnommé la Ligue des Antipropriaux.
Qu'est-ce qu'un cordonnier au début du XXe siècle ?
Alors, la cordonnerie est encore très artisanale. On croit souvent que l'industrialisation, elle devient massive, en fait, au XIXe siècle, qu'il y a plein d'usines partout, etc. Mais en réalité, il y a encore beaucoup de gens qui sont, en fait, ouvriers ou artisans à domicile. C'est vraiment, donc, au début du XXe siècle que cette industrialisation va venir à Amiens plus fortement. Et donc, c'est justement en 1900 qu'il y a la première manufacture de chaussures, Une Belle, qui s'installe place Parmentier. Donc, une grande usine qui concurrence, en fait, les petits artisans qui se voient menacés. Et justement, l'ouverture de ce local de la Ligue des Antipropriaux où travaillent en fait les cordonniers est un moyen en fait de contester cette mainmise en fait de grands patrons sur la production de chaussures et de continuer en fait à exercer artisanalement leur métier.
Qu'appelles-tu l'affaire de la rue Saint-Germain et qu'est-ce qu'on leur reproche exactement à ces cordonniers ?
Donc l'affaire de la rue Saint-Germain, c'est tout cet émoi que va susciter parmi les responsables des pouvoirs publics en fait l'installation de cet atelier anarchiste qui a pignon sur rue en fait et qui affiche sa propagande impunément. Et donc ils vont être poursuivis pour ça. Finalement, ce qu'on va leur reprocher quand ils passent au tribunal correctionnel d'Amiens en juillet 1901, ça va être le fait d'avoir une gravure de Ravachol, donc un anarchiste qui avait commis des attentats, avec écrit « Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pend ton propriétaire ». Donc, pend ton propriétaire, c'est considéré comme une provocation au meurtre. Donc, ils peuvent être incarcérés pour ça. Mais, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans toutes les pièces à charge qui sont utilisées contre eux, il y a toutes les revendications anarchistes qui sont mises dans le dossier au tribunal, dont des phrases comme « l'armée est l'école du crime », vive l'anarchie. Et en fait, le juge va seulement retenir l'élément qui peut constituer un délit. Mais on voit, en fait, dans la manière dont c'est traité, que ce qui est visé, en fait, c'est de les réprimer globalement, finalement, que ce soit cette gravure ou une autre. Ce qui dérange, c'est leur présence.
Extrait du journal anarchiste Germinal, le 5 janvier 1912. Cet intéressant mouvement de locataires parisiens a eu un précédent à Amiens il y a une dizaine d'années. Nos camarades anarchistes tinrent à leur tête pendant longtemps au vautour d'ici. Qui ne se rappelle les avoir vus défiler en ville, des meubles sur une charrette, aux accents joyeux de la chanson des antipropriaux. Ils procédaient ainsi chaque fois qu'un des leurs avait subi les exigences inhumaines de son vautour. Ils formèrent une ligue dont le siège se trouvait rue Saint-Germain. Tout Amiens défila devant leur local. La foule était telle à un certain moment qu'un service d'ordre dut être organisé. Les autorités se vengèrent en poursuivant Carpentier, Lemaire, Tarlier et Pépin devant la correctionnelle où ils récoltèrent la prison et devant le jury qui les acquitta. Elles prétextèrent des excitations au meurtre et des outrages à l'armée.
Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités.
Cette affaire de justice paraît banale aujourd'hui, c'est-à-dire dévoiler une banderole avec un slogan, on ne risque pas grand-chose, pourtant à l'époque, cela fait scandale. Pourquoi ?
Et du coup, au début des années 1900, on est dans le contexte quand même juste après les lois scélérates, donc de 1893-1894, qui ont, pendant quelques années, en fait, vraiment réduit au silence un certain nombre de groupes anarchistes partout en France. Donc là, ils retrouvent un peu une liberté de parole au début des années 1900, mais on voit qu'il y a toujours ce contexte répressif qui vise, en fait, à les réduire au silence. Ce qui est le plus important, ce n'est pas tant que ces lois existent, mais le fait qu'elles sont appliquées à certaines périodes en ciblant certains individus, puisqu'en fait, ces lois sont toujours en vigueur aujourd'hui, et on pourrait être poursuivi, en fait, à tout bout de champ, enfin, dans des manifestations, je pense qu'on peut voir parfois des slogans qui pourraient être passibles de poursuite. Simplement, c'est un outil politique qui va être utilisé à certains moments contre certaines personnes. Et ceci dit, même si ces lois ne sont pas autant appliquées aujourd'hui, on n'est pas non plus à l'abri de les voir revenir. Et on voit une certaine partie de la droite ou de l'extrême droite qui essaye de pousser encore plus loin ces dispositions-là. Et je pense par exemple, lors des débats à l'Assemblée nationale pour le vote de la loi ASAP, donc en hiver dernier, où en fait il y a Marine Le Pen par exemple qui avait proposé un amendement en reprenant exactement ces dispositions-là, c'est-à-dire que pour un chant, un logo, un écrit, une gravure, enfin et tout un tas d'énumérations comme ça, appelant à squatter, on pourrait aller en prison. Donc en fait c'est un délit en soi par exemple de faire un dessin d'un logo squat quelque part. Donc cet amendement n'est pas passé, mais on voit qu'il y a des velléités de certaines personnes de renforcer ce genre de disposition de censure de la liberté d'expression en fait.
Cette intervention marque la fin de nos déambulations dans les quartiers d'Amiens. Nous retrouvons dès maintenant nos deux invités, Coralie et Florian, pour échanger sur les résultats de leur mémoire de recherche. Nous sommes heureux de les recevoir aujourd'hui en studio. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors moi, l'objet de mon travail, ça a été vraiment de faire une étude d'une évolution dans le temps. Donc j'ai commencé mon enquête en 1900 et je me suis arrêtée en 1940. Et mon objectif, c'était un petit peu de commencer une forme d'histoire de ces pratiques illégales de l'habitat. J'ai observé une évolution entre la première période, donc 1900-1914, le début de la Première Guerre mondiale, où durant cette première période, c'est vraiment donc les anarchistes qui vont être moteurs de ces mobilisations en faveur du logement, qui vont réaliser des déménagements furtifs, qui vont se mobiliser autour de ça. Et une deuxième période, donc dans l'entre-deux-guerres, où cette fois-ci, ça va être plutôt des socialistes un peu plus aisés, un peu plus bourgeois, qui ont un statut social un petit peu supérieur et qui s'organisent complètement différemment, qui vont cette fois-ci s'emparer de l'enjeu du logement. Donc, dans la première période avant-guerre, les anarchistes, voilà, je le disais, c'est le déménagement furtif, de la propagande par le fait, de l'action directe, un refus de négociation avec les pouvoirs publics, et une auto-organisation finalement entre locataires pour se passer des propriétaires, revendiquer l'abolition des loyers, etc. dans l'entre-deux-guerres, on passe sur des réformations qui sont beaucoup plus réformistes et qui, en fait, vont s'adresser au pouvoir public directement en visant à changer la loi, à faire valoir des droits des locataires, mais également des devoirs, puisque en passant à une négociation avec les pouvoirs publics, ça s'assortit finalement d'un contrat réciproque. Et donc, on a des revendications beaucoup plus modérées qui vont se produire dans l'entre-deux-guerres. Et ça, en fait, on voit déjà le moment de bascule en 1912, où en fait, en 1911-1912, il y a un fort mouvement de locataires en région parisienne, avec notamment la figure de Georges Cochon, qui est assez célèbre, et qui s'illustre par un refus de payer son loyer, où il se barricade chez lui, et puis ensuite, il fait des occupations de logements, mais symboliques, en occupant des bâtiments vides pour loger des familles pauvres, et en demandant à la mairie de les reloger. Et il obtient ce relogement, donc c'était vraiment un ancêtre du droit au logement. Et donc ça a un grand succès à l'époque, ça fait le tour de la presse. Germinal, donc le journal amiénois des anarchistes, relate cette affaire. Et finalement, les anarchistes d'Amiens vont essayer de s'inspirer de Georges Cochon en 1912 en faisant la même chose. Et donc en aidant une locataire qui est expulsée de chez elle, en transportant toutes ses affaires jusqu'à la mairie d'Amiens, en installant ses meubles dans la mairie d'Amiens et en disant maintenant à la mairie, ben, il faut que vous la relogiez. Et donc la mairie va donner des billets de logement pour quelques jours, bon c'est pas sensationnel. Mais en tout cas c'est un début de basculement du mouvement où on passe d'une auto-organisation vraiment à portée révolutionnaire vers quelque chose qui s'adresse plus directement au pouvoir public. Et ça va se conforter vraiment dans l'entre-deux-guerres.
Et dans vos études, donc vous avez appliqué une méthodologie particulière. Est-ce que vous pouvez peut-être nous la décrire et aussi les limites à cette méthodologie, aux résultats de votre étude ?
Donc moi, ma méthodologie principale, étant donné que je cherchais à retrouver des traces de ces illégalismes du logement, ça a été de rechercher dans les référés, donc c'est les procédures judiciaires qui poursuivent ces occupants illégaux, donc de rechercher dans ces référés toutes les affaires que je pouvais trouver. Donc j'ai dépouillé des cartons pour l'année 1900, 1901, 1902, etc. aux archives départementales.
Donc, départementales principalement.
Et donc j'ai recensé, j'ai écrit, alors là, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Donc ça a été vraiment un travail très systématique, très répétitif finalement. Ce qui m'a permis de faire des sortes de statistiques, même si elles sont pas complètement exhaustives, puisqu'il y a d'autres procédures qui existent en réalité. Mais en tout cas, sur les référés, qui est la procédure principale aujourd'hui, j'ai dépouillé vraiment systématiquement les archives. Et ensuite, j'ai utilisé une autre méthodologie pour compléter en fait celle-ci, et notamment pour essayer de trouver des traces des mouvements politisés, où là, j'ai beaucoup eu recours aux archives de presse, donc de presse militante, mais aussi de presse locale plus généraliste, et aux archives de police, donc de renseignements, pour essayer de voir un peu des comptes rendus de manifestations, qu'est-ce qui pouvait exister à l'époque. Puis j'ai croisé tout ça avec plein d'autres sources, des condamnations judiciaires, les états civils, les services militaires. Enfin bon, ça a été vraiment beaucoup de recroisements pour essayer de retrouver ces traces qui sont quand même assez difficiles à saisir pour essayer d'avoir les itinéraires de ces personnes.
Oui, mais j'avais un sujet assez large en fait, les marginaux au 19e siècle. Qu'est-ce que c'est que les marginaux, les déviants, c'était très large. J'ai fait une grosse partie axée sur le vagabondage, j'ai dû faire des choix, et oui, c'était trop large pour être traité en 2 ans. Passer par la fenêtre de la répression du vagabondage, ça permettait déjà d'approcher beaucoup de réalités. Un échantillon, une courte période, un territoire assez resserré. Et après, c'est pareil, c'est par les sources de la répression, par la police et la justice, et là, encore moins que les militants, c'est vraiment très dur d'avoir la parole des marginaux d'il y a aussi longtemps.
Donc, en tout cas, les difficultés liées aux sources, je pense qu'en ce qui concerne les mobilisations comme les anarchistes, ça va être les périodes où il n'y a pas de presse anarchiste qui existe, notamment avant 1904. C'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas le discours des personnes. On a le discours de la répression, effectivement, mais il est toujours partiel, biaisé, on ne sait pas ce que les gens en pensent. Donc ça rend beaucoup plus compliqué d'analyser, et c'est plus simple quand on peut recroiser les deux, finalement.
Vers la fin du 19e, il y a des poètes réalistes, etc., qui tentent de faire entendre la voix de ces personnes. Donc mais ça reste un peu romantisé, etc. Il y a les anarchistes aussi qui, dans un truc plus idéalisé politiquement.
Et donc tu nous disais que les anarchistes, pour rebondir, tu disais que les anarchistes idéalisaient la forme du vagabond. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça représente, ce vagabond, pour ces anarchistes ?
On voit quand même beaucoup de liens entre ces milieux. Notamment, j'ai des comptes rendus de manifestations où en fait les rapports de police disent que derrière la manifestation conduite par les anarchistes, finalement c'est tous les bas-fonds d'Amiens avec des prostituées, des vagabonds et des mendiants qui se joignent au rang de la manifestation. Notamment, je crois que c'était une manifestation contre la vie chère. Et justement, ça a rempli d'horreur la police, l'idée que en fait, ces marginaux potentiellement peuvent se politiser et revendiquer des choses. Et donc c'est quelque chose qui s'est produit, qu'il y ait quand même des alliances à certains moments entre ces deux milieux.
Si les anarchistes défendent les vagabonds, ce qu'on appelait la canaille à l'époque, c'est aussi... ça vient de vieux clivages entre marxistes et anarchistes, en fait. Les conflits entre Bakounine et Marx, par exemple, où Marx, pour lui, il y a le lumpenprolétariat, donc le sous-prolétariat. Donc toutes ces personnes sans travail, etc., les populations des bas-fonds, pour Marx, ils n'ont pas de conscience de classe, donc ils pourraient se retourner contre les travailleurs à tout moment. Et,
ils ne sont pas fiables.
C'est ça. Et pour Bakounine, lui, c'est l'inverse. Pour lui, ils ne sont pas complètement contaminés par la société industrielle.
Aujourd'hui, ça vous mène où ces recherches ? Est-ce que vous les poursuivez ? Est-ce que vous avez changé de domaine de recherche ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, là, je suis en train de préparer un projet de thèse. En fait, je vais continuer d'approfondir une partie de mon mémoire sur les souterrains, les carrières souterraines, etc. Et les marginaux qui pouvaient y trouver refuge, en fait. Donc en étendant un peu les bornes géographiques et chronologiques, quoi. Donc en étendant donc,
toujours sur Amiens.
France, Amiens, plus Île-de-France et peut-être Belgique. Et donc je continue à faire des recherches aux archives et à me renseigner.
Donc moi j'ai continué, là je suis rentré en thèse en décembre 2021. Je suis reparti en sciences politiques, donc qui était mon premier domaine de recherche. Et toujours donc plus ou moins sur le même objet, c'est-à-dire les habitats illégaux. Donc à notre époque vraiment très contemporaine, ça va être les squats, la forme dominante, en tout cas celle à laquelle je vais m'intéresser. Et je vais essayer de garder un point de vue historique, mais en étant vraiment plus proche du temps présent, donc peut-être en remontant aux années 1970-80, pour essayer de faire une sorte d'histoire des squats de cette période-là jusqu'à aujourd'hui. Alors je ne sais pas encore les bornes géographiques, Amiens, la région parisienne et sans doute d'autres villes de France, mais pour l'instant c'est en cours. Voilà, en j'ai cours. Commencé il y a 2 mois.
Merci à vous d'être venu.
Merci à vous merci pour l'invitation.
Sonar, l'écho de l'histoire.
Après dîner, v'là le temps ou dans la presse, en train ou de lancement de putain, on va redécouvrir la détresse, la purée et les purs au teint. Les journaux, même ceux qui ont de la guigne, vont être pleins d'appels larmoyants, pleins de sanglots à 3 sous la ligne. Ce qui va s'en évader des larmes, en couler de la pitié. Plein de les pauvres, c'est comme vendre ses charmes, c'est un vrai commerce, un métier. On n'est pas muf en France, on ne s'occupe que des malheureux. Et boum, la bienfaisance bat le tambour sur les ventres creux. L'hiver, les murs sont pleins d'affiches pour fêtes de charité. Car pour nous secourir le monde riche, faut qu'il gambille à notre santé. Grâce à la misère, on rigole pendant la saison. Faut qu'ils vivent les rastaquaires et faut bien qu'ils redorent leur blason. Ceux de la politique, ils se gagnent une popularité. Pour ça, le moyen le plus pratique, c'est de chialer sur la pauvreté. Moi, je me dirais, tiens, y'a du bon. Le jour où je verrai socialistes et royalistes tomber de faim dans le palais Bourbon. Merde, v'là l'hiver et ses duretés. Merde, la l'hiver et ses duretés. Merde, la l'hiver et ses duretés. Merde, la l'hiver et ses duretés. Car tout le monde parle de pauvreté. D'une manière magnifique et ample. Vrai de vrai, y'a de quoi en rôter. Mais personne veut prêcher d'exemple. Ainsi regardez les employés, ceux de l'assistance évidemment, qui n'assistent qu'aux enterrements des pauvres qui paient pas leur loyer. Puis contemplons les artistes, peintres, poètes ou écrivains, car ceux qui font des sujets tristes nagent dans la gloire et les bons vins. Pour eux les pauvres c'est une bonne chose, un filon, une mine, un boulot. Ça se met en drame, en vers, en prose, et ça fait faire de chouettes tableaux. Oui j'ai remarqué mais j'ai peut-être tort, ceux qui se font nos interprètes en geignant sur notre triste sort, se retirent tous après fortune faite. Ainsi que néant en littérature, nous avons notre Victor Hugo qui a tiré des mendigots, de quoi caser sa progéniture. En peinture, y'a un troupeau qui gagne la forte somme à nous peindre plus top que nous sommes. Les poux aussi vivent de notre peau. L'en faut des pauvres, c'est nécessaire, tout un chacun s'exerce. S'il n'y avait plus de misère, ça pourrait bien ruiner le commerce. Mais je vais vous dire mon sentiment, c'est trop d'hypocrisie. Plaindre les pauvres, assurément, ça rapporte plus que la poésie. Je le prouve, c'est du pain assuré. Et quant aux pauvres, ils n'ont qu'à se taire. Jour où il n'y en aurait plus sur terre, bien des gens seraient dans la purée. Soit, mais moi je vais sortir de mon antre.